avec moi. C'est à 17h, heure du Washington, 21h, temps.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à vous tous dans l'Amérique et vous. Eric Manila Kidza en votre compagnie, Lionel Lonanila Gahima assure la mise en onde. Hôtel Rwanda décrit l'histoire héroïque d'un homme nommé Paul Rusesabagina qui a tout fait pour sauver en 1994 plus de 1200 personnes abritées dans l'hôtel des Mille Collines à Kigali pendant le génocide en empêchant les forces du régime de pénétrer dans l'hôtel. Mais des avis divergents et contradictoires existent sur son rôle réel dans cette histoire. Ce n'est pas ça qui nous retient ce soir. En 2005, le président américain George Bush a accueilli à la Maison-Blanche le héros controversé d'hôtel Rwanda, Paul Rusesabagina, qui a reçu des mains du président Bush la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile aux États-Unis. Devenue une voix critique du régime de Kigali, il a fondé en 2018 le mouvement rwandais pour le changement démocratique qui a ouvertement lancé et assumé une lutte armée à travers sa branche, le Front National de Libération, FLN. Fin août dernier, Paul Rusesabagina a été arrêté et amené au Rwanda. Il a été inculpé notamment pour terrorisme, meurtre et financement de rébellion par un tribunal de Kigali. Son arrestation a provoqué un tollé international, notamment aux États-Unis. Nous en parlons dans un instant. Ce soir, l'Amérique et vous reçoit trois invités. Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Pierre Karegeye, professeur à Dickinson College en Pennsylvanie. Il est chercheur sur l'extrémisme religieux et sur les questions de génocide. Bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Ismaël Diallo, activiste burkinabé et fervent défenseur des droits de l'homme. Bonsoir.
Bonsoir.
Sans tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Monsieur Rusesabagina vivait en exil en Belgique et aux États-Unis depuis 1996. Monsieur Cohen, dans votre tweet du 11 septembre, vous appelez la communauté internationale, notamment le gouvernement américain, à prendre une position ferme en réaction du kidnapping illégal du héros du génocide Paul Rusesabagina. Vous ajoutez que Kigali a franchi la ligne rouge. Quels sont vos arguments?
Ouais, écoutez... S'il y a quelqu'un qui vit en exil et il est en désaccord avec le gouvernement d'origine, ce n'est pas une raison d'aller le chercher dans un autre pays ou de le kidnapper. Ce n'est pas la première fois pour le régime de Kigali. Il y a quelques années, il y avait un Rwandais qui a été étranglé dans un hôtel à Johannesburg. Il était en désaccord avec le régime. Il y avait un autre Rwandais qui a été fusillé au revolver à Nairobi. C'est la même chose. Il a critiqué le régime et vivait en exil. Et maintenant, c'est le héros de l'hôtel Rwanda. Donc, à mon avis, il ne faut pas laisser passer ça sans commentaire, sans action. Il faut quand même critiquer le Rwanda pour ça.
En juin et décembre 2018, le FLN... Cette branche armée du mouvement rwandais pour le changement démocratique fondée par M. Rusesabagina lui-même et dont il était président en exercice a revendiqué des attaques au sud du Rwanda. Et dans une interview en Kinyarwanda sur la Voix de l'Amérique, M. Rusesabagina ne s'est pas désolidarisé de ces attaques et a affirmé même la présence de ses troupes dans la forêt de Nyungwe. M. Cohen, est-ce que vous êtes au courant de tous ces développements?
Non, je ne suis pas au courant. Je vois maintenant que vraiment, il est entré en guerre contre le régime. Oui, c'est vrai. Donc, je comprends un peu ce que Kigali a fait. Mais kidnapper quelqu'un qui est dans un avion privé, c'est contre la loi internationale, mais même si c'est votre ennemi dans l'avion.
Jean-Pierre, que pensez-vous de cette arrestation? Vous pouvez également réagir au propos de M. Cohen.
Oui, je voudrais d'abord réagir très rapidement. D'abord, j'aimerais dire qu'il y avait un article très intéressant écrit par l'ambassadeur Herman Cohen. C'était en juin, le 3 juin 1994, c'est-à-dire vers la fin du génocide, qui est extraordinaire, là où il reconnaissait qu'il y avait un génocide qui s'est passé au Rwanda et il regrettait que l'administration Clinton ait pu intervenir au Rwanda. Et donc, il critiquait au nom d'une certaine solidarité internationale. Et dans cet article, il disait clairement que ceux qui ont été tués l'ont été parce qu'ils sont Tutsis. Et ça, c'est dans son article. Et c'était extraordinaire de voir quelqu'un réagir à l'époque donc sur ça. Et alors, pour revenir à Rusesabagina, et je crois que le mot « héros » porte aussi confusion. Je suis professeur de littérature et aussi critique des films. C'est-à-dire, le héros, de mon point de vue, serait la personne qui a joué le film, et pas Rusesabagina. Et pour revenir à Rusesabagina lui-même, il a dit en Kinyarwanda, donc il y a une vidéo qui circule, où il disait que quand les Rwandais, au fait, mettaient en cause le contenu du film, et lui disait, voilà, les Rwandais ne comprennent pas que c'est une fiction. Et donc, ça ne s'est pas passé comme c'est raconté. Effectivement, là, Rusesabagina avait raison, parce que l'histoire de Rusesabagina, pour la première fois, est apparue dans le livre de Philippe Gorovitch. Et le livre s'appelle « Nous avons le plaisir de vous informer que demain », où Philippe Gorovitch surtout prend le point de vue des victimes, des survivants.
Moi, Jean-Pierre, oui. Le sujet du débat de ce soir, ce n'est pas...
Vous avez raison, mais il est présenté comme héros, et là je reviens. Et pourquoi est-ce que je cite l'article de l'ambassadeur Cohen? C'est parce que Rusesabagina, dans plusieurs de ses présentations, lui, il présente autrement ce génocide dont il dit qu'il a sauvé les gens. Donc, moi je dirais que c'est une très bonne nouvelle. Et c'est une très bonne nouvelle que Rusesabagina soit au Rwanda. Parce que, comme vous le savez, dans plusieurs médias, il a déclaré, il a annoncé avoir créé un groupe armé, FLN, ou travaillé avec FLN. Et puis, quand il y a eu des attaques au Rwanda, donc en 2018, dans la forêt des Nyungwe, il y a eu plusieurs morts, je crois 9, mais des véhicules brûlés. Et puis en décembre aussi, il y a eu de nouvelles attaques en 2018. Et quand on lui avait posé la question, il avait assumé ça. Il avait dit, voilà, j'ai pris des armes, etc. Et nous sommes au Rwanda. Et je crois, pour moi, c'est une très bonne nouvelle qu'il soit jugé au Rwanda. Et là où il y a, et c'est la justice pour les victimes, donc des victimes du terrorisme, etc. Et je crois, pour moi, la question, ce n'est pas comment est-ce qu'un terroriste, au moment où les actes qu'il a commis sont définis par la loi rwandaise comme terrorisme, donc la question, ce n'est pas comment est-ce qu'un terroriste est arrivé au Rwanda, mais jugeant surtout ses actes et son mouvement armé, mais plutôt comment est-ce que la justice va se passer. Et pour moi, je crois que cela, c'est essentiel.
Oui, Jean-Pierre, il y a la question de la forme et la question du fond qui sont posées. Human Rights Watch dit que l'implication de M. Rusesabagina dans les actions du Front National de Libération, considéré comme terroriste par Kigali, n'est pas claire.
Bon, alors la question, c'est qui définit le terrorisme? Chaque pays, donc il y a d'abord au niveau, même les États-Unis, dans leur définition du terrorisme, ils disent, bon, il peut y avoir une définition ambiguë, etc. Donc assez large, comment est-ce qu'on définit? Mais les Américains ont le droit, semble-t-il, de définir ce qu'ils considèrent comme terroristes. Et ils le font. Et vous avez à regarder Patriot Act, par exemple, qui est sorti d'ailleurs quand l'ambassadeur Cohen lui-même était en fonction. Et donc, le Rwanda a aussi le droit, donc le droit rwandais aussi, de définir ce qui est terroriste. Et je crois que ce qui régit le Rwanda, la loi rwandaise, et le droit rwandais, pardon, ce n'est pas Human Rights Watch.
Monsieur Ismaël Diallo, vous avez beaucoup lu sur Paul Rusesabagina. Vous êtes un défenseur des droits de l'homme. Human Rights Watch a estimé que Monsieur Rusesabagina avait été victime d'une disparition forcée dont les autorités rwandaises devraient répondre de manière exhaustive. Nous avons quelques détails qui sont révélés par Rusesabagina lui-même dans l'article du New York Times. Quel est votre point de vue?
Je voudrais tout d'abord exprimer un postulat pour ce qui me concerne. En politique, je suis fondamentalement contre la violence physique. J'estime même que dans l'expression verbale en politique, il faut se garder de certains extrêmes. Ceci dit, je suis étonné d'entendre l'ambassadeur Cohen montrer du doigt le gouvernement rwandais, parce que quel est le gouvernement au monde qui ne cherche pas à faire taire ses opposants, surtout lorsqu'ils recourent à la violence? Israël le fait depuis 1948. Est-ce que les États-Unis ou M. Cohen ont attaqué Israël? L'Arabie saoudite a envoyé en Turquie assassiner un opposant journaliste. Le problème, en vérité, c'est que c'est l'Afrique noire qui est toujours montrée du doigt. Washington, Paris, Bruxelles exigent de l'Afrique noire ce qu'ils n'exigent de personne d'autre et de n'importe quel autre pays. On veut l'indépendance, on veut la démocratie immédiatement. On veut des élections tout de suite. On veut les droits de l'homme tout de suite. Et aucun écart n'est permis. Et qu'est-ce qu'on demande au monde arabe? Qu'est-ce qu'on demande au monde asiatique? Qu'est-ce qu'on demande à l'Amérique latine? Mais je ne dis pas que c'est de la faute des autres, hein, c'est de la faute des Africains noirs. Maintenant, pour ce qui concerne ce cas particulier, et je m'excuse d'avoir été plus long avant, le gouvernement rwandais, comme n'importe quel autre gouvernement au monde, va attaquer ses opposants. Je ne suis pas d'accord qu'il les tue. Je ne suis pas d'accord qu'il les torture. Je ne suis absolument d'accord. Je ne suis pas d'accord pour des aveux forcés qui ne sont pas valables. Mais quel est le gouvernement qui ne cherche pas à faire taire ses opposants? Sauf si ce sont des opposants qui ne dépassent pas une certaine ligne, comme la dame opposante qui est à Kigali et qui refuse d'en partir. Et je salue son courage.
Victoire.
Voilà. Je salue la détermination, la constance et le courage de cette dame qui reste, qui va en prison, qui s'exprime, qui refuse de fuir et de partir. Bon, maintenant, ce monsieur, oui, il a été dupé. Il a pris un vol à Dubaï, croyant aller au Burundi, et il a atterri au Rwanda. D'abord, il voulait aller au Burundi, et il connaît les relations qu'il y a entre Bujumbura et Kigali en ce moment, et certainement pour tenir un discours anti-rwandais ou anti-gouvernement Kagame. Alors, donc, on peut montrer du doigt le gouvernement Kagame, très bien, mais il n'y a pas de gouvernement qui ne le fait pas. Maintenant, quel va être son sort là-bas? Est-ce que la justice rwandaise sera indépendante dans ce qu'elle fera, mais quelle est la justice au monde qui est vraiment indépendante?
On va y revenir, M. Diallo. Monsieur Cohen, je voudrais vous donner l'opportunité de réagir.
Écoutez, je crois que Moussa Sabagina a fait une imprudence en allant de Dubaï à Bujumbura, juste à côté de Rwanda. Il devait savoir que le gouvernement de Rwanda le cherchait. Donc, il n'était pas très intelligent de faire ça. Et aussi, il y a le propriétaire de l'avion. Le meilleur client de cette société d'aviation est le gouvernement de Kigali. Donc, c'est clair que le gouvernement de Kigali a dit qu'il faut atterrir à Kigali, après à Bujumbura. Mais ces gens-là doivent être attaqués en justice parce qu'ils ont violé toutes les lois internationales d'aviation, n'est-ce pas? Donc, je crois que tout ça est très louche et je ne suis pas d'accord que le gouvernement de Kigali avait le droit de faire ce qu'ils ont fait, malgré le fait que tout le monde cherche leurs opposants. Je sais que les États-Unis ne cherchent pas les gens qui s'opposent au gouvernement des États-Unis.
Est-ce que je peux réagir à ça, Eric, si vous me permettez?
Jean-Pierre, vous pouvez prendre 30 secondes.
La question du terrorisme ne peut pas être réduite à la question comment est-ce qu'il a atterri au Rwanda. Parce que poser cette question, c'est comme si on reviendrait à dire comment est-ce que les États-Unis, vous m'excuserez la comparaison, comment est-ce que les États-Unis sont arrivés à voir Bin Laden. Et la bonne nouvelle au Rwanda, c'est qu'en 2007, la peine capitale a été abolie, donc on n'est pas à ce niveau, et loin de là, et personne ne soutient, je ne soutiens pas. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que la question, il faut vraiment qu'on revienne à la question du terrorisme et pas à la question de savoir comment est-ce qu'il a atterri au Rwanda. Rwanda. Et je crois que le Rwanda, tant que gouvernement, a le droit d'assurer la sécurité à sa population. Et ça, c'est important.
Vous suivez l'Amérique, vous, sur VOA Afrique depuis Washington, D.C. Eric Manirakiza, toujours en votre compagnie.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Le secrétaire adjoint américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, a rencontré l'ambassadeur du Rwanda aux États-Unis au sujet justement de l'arrestation de Paul Rusesabagina. Puis dans son tweet, M. Nagy a dit que le gouvernement américain attend du Rwanda un traitement humain, le respect de l'état de droit et un processus juridique équitable et transparent pour M. Rusesabagina. Monsieur Cohen, comment faut-il interpréter cette déclaration?
C'est-à-dire qu'il n'a pas critiqué le gouvernement de Kigali pour cet acte illégal d'intercepter un avion contre les lois internationales. Je suis un peu déçu pour ça. Autrement, c'est ce qu'il faut dire quand il y a des gens qui sont emprisonnés et préparés pour être jugés. C'est normal, on dit ça pour tout le monde.
Jean-Pierre, quel sort faut-il réserver à Rusesabagina selon vous? Il est détenu par un régime qui a conquis le pouvoir par les armes, disent certaines voix.
Et juste d'abord, tout à l'heure vous parliez de ce Twitter des États-Unis et vous remarquerez qu'aucun gouvernement d'ailleurs dans le monde n'a critiqué l'arrestation de Rusesabagina pour la simple raison plusieurs pays ont des lois sur le terrorisme et ils savent ce que ça signifie. Et d'ailleurs, ils sont peut-être plus au courant que moi qui suis chercheur. Ils savent ce dont Rusesabagina est accusé. À votre question concernant prendre les armes, Rusesabagina a-t-il le droit de prendre des armes? Et alors là, il a affaire à la loi, donc au droit rwandais. Qu'est-ce que le Rwanda dit pour ce qui est de prendre des armes contre un gouvernement et surtout de tuer des gens? Et je crois que pour lui, en prenant des armes, on a vu des actions. Quelles sont ces actions? Donc, il y a eu des victimes, des gens qui sont morts dans la forêt des Nyungwe, des véhicules qui ont été brûlés, et il a assumé ça.
Monsieur Diallo, vous avez parlé tantôt de Victoire Ingabire qui est à Kigali, qui a dit que elle a choisi l'opposition pacifique, qu'il y a des gens qui estiment qu'ils ne sont pas écoutés, qui choisissent la voie des armes, mais qu'ils doivent aussi accepter les conséquences. Monsieur Cohen, vous avez quelque chose à dire avant de passer la parole à Monsieur Diallo?
Non, allez-y.
Monsieur Diallo, vous avez dirigé un bureau onusien des droits de l'homme. Et dans une interview avec le New York Times, Paul Rusesabagina dit qu'il est innocent. Vous avez lu l'article en question. En avril 2019, le porte-parole de cette branche armée, le major Calixte Sankara, a été extradé des Comores, puis emprisonné à Kigali. Il a plaidé coupable et passé aux aveux qui seraient accablants pour l'ancien héros d'hôtel Rwanda. A-t-il des chances de s'en tirer avec les charges qui lui sont reprochées?
Vous vous rappelez qu'il a annoncé lui-même, ce monsieur Paul Rusesabagina, le lancement d'une lutte armée en juillet 2018 pour, a-t-il dit, libérer le peuple rwandais. Et la lutte était contre le RPF, le régime à Kigali. Bien, il a tout à fait le droit de le faire. A-t-il le droit d'user de la violence et de la lutte armée? Beaucoup le font quand ils estiment qu'il n'y a pas d'autre solution que cela, que cette option. Maintenant qu'il est entre les mains des autorités au Rwanda, l'idéal, bien entendu, serait qu'il soit bien traité, serait qu'il ait une justice équitable. Très bien. Maintenant, est-ce que celle-ci sera? On verra bien. Quant à dire on a kidnappé l'avion, on a détourné l'avion, c'est pas correct, c'est pas juste, on l'a arrêté, on n'aurait pas dû. Tout cela, pardonnez-moi l'expression, le mot que je vais utiliser, mais tout cela c'est du détail. C'est du détail parce qu'il n'y a pas un gouvernement au monde qui va s'embarrasser de ses scrupules pour se défendre ou défendre ce qu'il croit être la sécurité de son pays, y compris les États-Unis et surtout les États-Unis. C'est un pays, je prends le cas des États-Unis parce que l'ambassadeur Cohen est dans le débat. C'est un pays qui certainement n'hésiterait pas à aller après ses opposants et de la pire des manières.
Monsieur Diallo, revenu sur le terme terrorisme, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gouvernements qui profitent de changer les lois et d'utiliser cette expression dans plusieurs situations qui ne sont pas, disons, liées à la vraie définition du terrorisme?
Pas un seul gouvernement au monde, je le prétends, qui suit le droit de manière les yeux fermés. Il y a toujours à côté quel est l'intérêt du gouvernement et quelle est l'interprétation du gouvernement sur la sécurité et la stabilité du pays. Alors le droit est usé, utilisé en fonction de ces concepts. Donc le terrorisme de l'un est le libérateur de l'autre. Et utiliser les armes ou ne pas utiliser les armes aussi fait une grande différence.
Oui, vous parlez de détails sur la manière dont il a été arrêté. Est-ce que cela ne pourrait pas, disons, ouvrir la porte à tous les abus, à mauvais précédents pour d'autres opposants qui ne sont pas peut-être impliqués dans des situations armées, mais si un gouvernement est fort, qu'il peut utiliser beaucoup de moyens, donc on peut cueillir quelqu'un là où il est?
Vous ne pourrez pas me citer un seul gouvernement au monde, je dis bien un seul gouvernement au monde, qui ne le ferait pas s'il en a la capacité. Alors qu'on ne prétende pas que ça ne se fait pas par tel pays ou tel gouvernement.
Jean-Pierre ?
Oui, revenant à ça, moi je serais même étonné que l'ambassadeur Cohen se pose la question sur les manières. Comment est-ce qu'on arrête, je ne dirais pas les opposants, mais les terroristes. Par exemple, il connaît lui-même ce qui s'est passé avec l'invasion du Panama, par exemple. Qu'est-ce qu'on a, Emmanuel Noriega, c'est un chef d'État qui était arrêté par les forces américaines. Il sait très bien, par exemple, comment est-ce qu'on arrête des terroristes, comment est-ce que les gens atterrissent dans les camps de Guantanamo.
Monsieur Cohen, votre réaction?
Oui, écoutez, il y a des lois sur la question de chercher des gens qui ont fait des crimes qui sont dans les autres pays. Ça, c'est l'extradition. Monsieur Rousseff-Sabagina, je crois qu'il habite en Belgique. Pourquoi
il a aussi une résidence aux États-Unis, je pense.
Résidence aux États-Unis. Ce serait très simple pour le gouvernement de Rwanda de dire, voilà ce monsieur qui habite aux États-Unis, il a fait des actes terroristes, il a tué des gens, nous voudrions le mettre, d'être jugé chez nous. Donc, on fait une demande d'extradition qui est faite souvent et ça passe devant un tribunal américain. Il y a des témoins qui vont venir et dire, voilà, nous avons vu que les gens parrainés par M. Rousseff-Sabagina ont tué des gens, ils ont fait du terrorisme. Nous demandons qu'ils soient extradés à Rwanda. Ils auraient pu gagner comme ça. Mais de hijacker un avion en plein vol comme ça, moi, j'aurais peur de prendre même Air France, qui va à Bujumbura maintenant, entre Paris et Bujumbura. Si Air France atterrit à Kigali, je suis arrêté parce que j'ai fait des commentaires sur la loi de l'Amérique. Ça ne se fait pas dans les lois internationales. Et on demande formellement, on va devant un tribunal, on fait le procès et on prend une décision, n'est-ce pas? C'est comme Charles Taylor a été extradé au Liberia, n'est-ce pas? Ça, c'est la méthode légale. Mais si on fait des choses illégales, ça entraîne beaucoup de malheur. En fait, ça ne se fait pas pour l'aviation. Il y avait trop de hijacking dans ma vie.
Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous. Merci à nos invités, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Merci, Monsieur Cohen, pour votre contribution dans cette émission.
Merci.
Jean-Pierre Karegeye, professeur à Dickinson College en Pennsylvanie, chercheur sur l'extrémisme religieux et sur les questions de génocide. Merci également.
Merci beaucoup. Et Sabagina a quitté Dubaï légalement. Donc, il n'a pas été kidnappé. On n'a pas de preuves. Merci.
Ismaël Diallo, activiste burkinabé et fervent défenseur des droits de l'homme, merci pour votre contribution.
Merci.
Lionel Lunanila Garima a assuré la mise en onde. Eric Manila Kiza vous souhaite un excellent week-end. À la prochaine.